La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, un objet peut-il être une personne ? La frontière qui sépare les humains de ceux qui les entourent subit aujourd'hui des érosions et des glissements. On se pose la question de savoir si les animaux devraient avoir des droits, si les robots devraient en avoir également. Même s'il n'est pas nouveau, l'enjeu de cette question est de taille. Il divise le monde entre d'un côté les partisans de l'élargissement de la notion de personne à d'autres êtres que les humains, et de l'autre ceux qui refusent cette extension catégorielle au nom de l'humanisme. Les machines doivent rester des machines, les objets doivent rester des objets, les animaux doivent rester des animaux, sans quoi il deviendra difficile de les manger. Les premiers, qui vont souvent vite en besogne, se retrouvent taxés de naïveté ou d'inconscience, on les accuse même parfois de saper les fondements du pacte social. Les autres ne voient pas toujours que le grand partage qu'ils défendent, les animaux sont des animaux et pas plus que cela, les objets sont des objets et rien d'autre, est une idée assez neuve. Elle remonte au projet des Lumières, qui a imposé une cure d'amaigrissement à tout ce qui, dans l'entourage de l'homme, pouvait, de près ou de loin, lui ressembler sans lui être complètement équivalent. Mais qu'est-ce qui fait qu'une entité, vivante ou inerte, peut nous sembler être une personne, ou presque une personne? Par quoi un objet, une image, un minéral, un animal, un végétal, peut avoir l'air d'abriter quelqu'un? Et d'où nous vient cette facilité à traiter comme des humains, des êtres qui ne nous ressemblent pas, ou pas beaucoup? Pour discuter de ces questions, j'ai invité Anne-Christine Taylor. Bonjour Anne-Christine Taylor.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS. Et vous êtes l'un des commissaires, ou l'une des commissaires, je ne sais pas ce qu'il doit dire, ce qu'il faut dire, de l'exposition Persona étrangement humain, qu'on peut voir au musée du Quai Branly jusqu'au 13 novembre 2016. Alors ma première question porte sur le mot personne. Mm-hmm. Comment définit-on une personne ? À quoi tient la personnalité d'un objet, d'une chose, d'un nuage ou d'un être vivant ?
Vous démarrez sur les chapeaux de roue, Étienne, parce que c'est une question terriblement difficile.
C'est pour ça que je vous la pose.
Qu'est-ce que c'est qu'une personne ? C'est une entité qui occupe une position de sujet, à la fois de sujet grammatical, en un sens, de une position dénonciateur, comme on dit, qui est capable donc de dire « je », ce qui suppose tout un ensemble de corrélats, si j'ose dire, de l'intentionnalité, des sentiments, une conscience de soi, etc. etc. Et puis, évidemment, une enveloppe ou un contenant corporel. Alors là où ça se complexifie, c'est dans ce rapport entre une position d'énonciation, un sujet, et l'enveloppe corporelle. Parce que là, en revanche, les différentes sociétés du monde ont des systèmes de triage tout à fait différents. Et dans telle société, plein de choses qui chez nous sont exclues de la position d'énonciateur ou de sujet se retrouve bel et bien en position de sujet, des animaux, voire des artefacts, etc. Même si c'est généralement à titre provisoire ou de manière intermittente, ça on va y revenir. C'est là où est la vraie variabilité.
Mais est-ce que la notion d'objet, qui suppose qu'il n'y a pas de conscience de soi, enfin on pense qu'un objet n'a pas conscience de lui-même, est une notion occidentale ou est-ce qu'il existe cette catégorie de choses dans d'autres cultures ? C'est-à-dire une chose qui n'a pas d'intention, qui n'a pas de conscience, qui est complètement inerte.
Oui. Disons que c'est pour nous une catégorie qui englobe énormément de choses et qui est même beaucoup plus large que celle de sujet ou d'acteur ou de sujet en général. Dans des sociétés comme celle où j'ai travaillé en Amazonie, ce serait plutôt l'inverse. La catégorie de très loin la plus envahissante, la plus englobante, c'est celle de sujet. Et les objets sont très rares, à la fois au sens propre du terme. C'est pas des sociétés qui produisent beaucoup d'objets, en dehors de quelques objets utilitaires, souvent relativement polyvalents, mais c'est pas du tout des sociétés qui sont dans une profusion d'objets, y compris d'ailleurs d'objets d'art. Et du coup, un objet, ce serait simplement la position par défaut de quelque chose dont on ne perçoit pas ou dont on ne pense pas, dont on n'est pas préoccupé par sa subjectivité. Une pierre, en temps normal, on n'y fait pas attention, etc. Quand on s'en sert pour des choses, là, du coup, elle peut être subjectivée. Mais la plupart du temps, voilà. Ça, c'est donc une catégorie par défaut, plus qu'une catégorie métaphysique, solide.
Alors pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de créer cette exposition Persona au musée du Quai Branly? Est-ce que vous pensez que c'est une question qui se pose de plus en plus?
D'abord, tout simplement, le fait que, je dirais, quoi, 90%, 80% des objets qui sont exposés au musée du Quai Branly sont des choses qui, au moins dans certains contextes et à certains moments, sont pris pour des personnes. Sont des personnes, sont traitées et considérées comme des personnes.
Ça veut dire qu'on peut être une personne à temps partiel?
Totalement. Et on va y revenir. Ça, c'était une première raison. Et quand même, la moyenne des visiteurs du musée ne s'interroge pas trop, justement, sur l'objectalité, si j'ose dire, des objets qu'ils voient. Mais, effectivement, il faut quand même mettre en lumière ce fait que ces objets sont, dans beaucoup, beaucoup de contextes, sont bien des personnes. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, vous y avez fait allusion, c'est effectivement la question de l'érosion ou du vacillement des frontières entre ce qui est admis comme humain et ce qui ne l'est pas dans nos sociétés aujourd'hui. Et effectivement, vous l'avez souligné, la question des animaux, la question des machines et en particulier des robots, évidemment, fait un peu bouger ces frontières. Au fur et à mesure que ces objets deviennent de plus en plus familiers et que du coup s'installent avec eux des routines d'interaction. Et ces routines d'interaction, en fait, sont des routines de personnification, dans bien des cas. Si vous avez un chien ou un chat, vous savez très bien que quand vous rentrez chez vous le soir, première chose que vous faites, c'est de parler à votre animal. Itou, un robot, c'est presque impossible de ne pas s'adresser à lui comme une personne. Vous savez qu'au musée du Quai Branly, nous avons une sorte de robot fétiche qui s'appelle Berenson, qui est un robot expérimental fait par un labo de robotique de Cergy, l'université de Cergy-Pontoise, et qui est censé apprendre à être un connaisseur d'art. Autrement dit, apprendre à se former, à se forger un goût, une capacité de discrimination.
Il est anthropomorphe, il a la forme d'un humain.
Il est complètement anthropomorphe, on l'a habillé. Parce qu'il se promet, en fait, il apprend en interagissant aussi bien avec les objets qu'avec le public. Il apprend, c'est-à-dire qu'il enregistre progressivement des données qui lui permettent progressivement de faire des choix. Ce robot, évidemment, est suivi par des anthropologues qui observent les interactions, en particulier Denis Vidal, qui est un des commissaires de l'exposition. Et les enfants, très spontanément, s'adressent très facilement au robot comme à une personne. Les parents sont plus distants, mais ne manquent jamais de dire à leur enfant, quand ils s'en vont, maintenant, dis au revoir, monsieur.
En fait, c'est une relation qui est toujours symétrique par définition. C'est-à-dire, quelle est la part qui revient au fait que nous personnifions ces objets? Et quelle est la part qui revient à ce que vous appelez dans le catalogue de l'exposition des effets de personne? C'est-à-dire que ces objets, en fait, diffusent par toutes sortes de biais compliqués, l'idée qu'ils sont des personnes.
Absolument.
Dans quel sens ça marche le plus?
La différence entre un objet personne et un effet de personne, c'est simplement que l'objet personne, c'est un effet de personne stabilisé, qui est plus ou moins permanent. Un effet de personne peut être extrêmement fugace. Quand vous vous promenez la nuit dans la forêt, par exemple, vous entendez des craquements, etc. Tout d'un coup, vous avez un effet de personne. Vous avez le sentiment qu'il y a quelqu'un là-dehors qui vous suit ou qui vous observe. Ça dure 3 secondes, éventuellement. Quand vous êtes devant une statue qui représente une divinité, par exemple, dans un temple, cette présence, elle est... C'est pas que vous la ressentez, vous en faites l'expérience en permanence... mais en principe, elle est stabilisée. Elle est là et elle est toujours susceptible d'être activée. C'est la seule différence, au fond.
Ou bien un nuage qui a la forme d'un visage. Là, ça peut durer un temps assez court, mais dès que l'image se défait, dès que la ressemblance n'est plus visible, l'effet de personne s'anéantit immédiatement.
Exactement.
Et crée une forme de déception, d'ailleurs.
Elle peut créer une forme de déception et c'est pour ça que les psychologues cogniticien attribue cette faculté à avoir des personnes dans l'environnement à une prédisposition maintenant innée ou plus exactement héritée de dizaines de milliers de d'évolutions qu'ils appellent les, vous savez que les cogniticiens ont souvent une affection un peu voisine de celle de la CIA pour les acronymes et ils appellent ce dispositif HAD, Hyperactive Agency Detection Device. C'est-à-dire tout simplement une sorte de branchement ou de pré-câblage cérébral qui fait que nous sommes extraordinairement prompts à détecter des intentions dans notre environnement. Et les effets de présence jouent évidemment là-dessus.
Alors, vous parliez de chercheurs en sciences cognitives. Vous parlez dans le catalogue de l'exposition d'une expérience qui a été faite en 1944 par Fritz Heider et Marianne Simmel, une sorte d'animation avec des figures géométriques, des cercles, des triangles et des carrés, je crois.
Oui, c'est ça. Oui.
Ils sont animés et on ne peut pas s'empêcher de leur prêter des intentions, un caractère, une psychologie. Est-ce que c'est compris, ça? Pourquoi est-ce que des formes qui sont très peu anthropomorphes arrivent à provoquer chez nous l'idée qu'elles sont des objets vivants, actifs, ayant des projets, des comportements très typés?
Et justement, à cause de ce fameux HAD, quand cette expérience de Heider et Simmel, maintenant, rétrospectivement, on se dit qu'elle est un peu biaisée si on voit les questions qui étaient posées au public.
Peut-être que vous pouvez rappeler en quoi elle consiste.
Oui, alors, ça, c'était une expérience, comme souvent les grandes, géniales expériences psychologiques, qui étaient d'une grande simplicité. Ça consistait simplement à montrer une sorte de petit film sur lequel on voyait des formes géométriques, en l'occurrence une boîte dont un des côtés s'ouvrait éventuellement pour et deux ou trois ronds. Et les ronds bougent, interagissent entre eux et avec la boîte. Et on demandait au public de décrire ce qu'il voyait. Et effectivement, les sujets, les cobayes, ne peuvent pas s'empêcher de parler de ces figures géométriques et de leur mouvement en termes d'intentionnalité. La boîte fait ceci, les trois ronds, les deux ronds attaquent le troisième essaie de rentrer dans la boîte, et à partir de ces éléments, construisent effectivement un petit schéma narratif. Donc, ces deux choses, intentionnalité et ce qu'on appelle de façon un peu pédante, narrativité, c'est-à-dire capacité à rentrer dans une histoire ou à faire partir d'une séquence temporelle dans laquelle il se passe quelque chose.
Et est-ce que tout ceci peut être objectivé? C'est-à-dire, toutes les personnes qui voient cette animation, ce petit film, déduisent-elles de ce qu'elles observent les mêmes traits de caractère de la part des objets?
Plus ou moins en fonction de leur imagination, de toutes sortes de choses. Et évidemment, c'est toujours très schématique. Je ne pense pas que ça aille généralement, sauf peut-être pour des enfants qui effectivement portent des jugements de personnalité en disant « il est méchant, la boîte est méchante ».
Un cercle peut être méchant.
Voilà, un cercle peut-être méchant, mais les adultes en général disent, parlent plutôt en termes beaucoup plus généraux.
Alors puisqu'on en est dans les sciences cognitives et dans l'éthologie, on pourrait dire, enfin je crois qu'il a été montré que un animal qu'on traite comme une personne, un chien à qui on parle, comme vous le rappeliez tout à l'heure, modifie son comportement et réagit par exemple à des ordres du maître, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Mais est-ce que c'est réciproque? C'est-à-dire, est-ce qu'un chien, par exemple, se comporterait avec un robot anthropomorphe exactement comme il le fait avec un humain?
Il y a quelques scientifiques qui travaillent sur cette question, dont un des contributeurs du catalogue, José Allois, qui est un physicien d'ailleurs, et qui justement travaille sur la question de l'interaction entre des poissons et des robots, pour voir si on peut fabriquer des robots qui soient acceptables pour les poissons, comment ils les reconnaissent, est-ce qu'ils interagissent avec
mais
eux.
Mais acceptable, c'est-à-dire, est-ce qu'un poisson peut refuser un robot? Qu'est-ce que ça veut dire, refuser
un robot? Il peut l'ignorer, encore que le fait d'ignorer n'est pas nécessairement un signe négatif chez les animaux, mais il peut fuir ou l'attaquer éventuellement.
Mais ce sont des robots qui sont destinés à faire quoi ?
Ou simplement, comme vous savez, comme on fait pour des bébés, c'est l'attention qu'on lui porte. Est-ce que les poissons sont attentifs aux robots ? Ça, c'est un signe révélateur, disons. Par ailleurs, c'est absolument évident que les animaux, effectivement, sont modifiés, on le sait très bien, par le comportement humain. Le processus de domestication a complètement changé les comportements habituels d'un certain nombre d'animaux.
Évidemment. Les chiens ne se comportent pas comme des loups.
Absolument pas. Ni les vaches comme des buffles, si j'ose dire, et ainsi de suite. Il y a toute une série de comportements qui ont été routinisés. Mais l'inverse est également vrai. Il y a un délicieux petit livre de Vinciane Després qui a travaillé avec des bergers sur la manière dont les moutons apprennent aux bergers à devenir bergers. Et c'est tout à fait passionnant parce que...
Les moutons apprennent aux bergers à devenir bergers.
Parce qu'il s'agissait en l'occurrence d'un problème technique assez simple, c'est qu'il n'y a plus assez de bergers. Et les écoles, ça c'est très français, les écoles de bergers sont extrêmement théoriques et très peu pratiques.
Il faudrait qu'elles soient dirigées par des moutons, c'est ça votre proposition.
Évidemment. Résultat, quand les bergers sortis de ces grandes écoles de bergers arrivent devant des moutons, ils savent tout, mais rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée de comment interagir avec ce conglomérat qu'est un troupeau. Et elle a étudié donc la manière dont les moutons, petit à petit...
Dressent le berger.
Voilà, ou comment les bergers ont l'impression que les moutons les dressent à être attentifs à certaines choses et pas à d'autres, etc. Et comment devenir des bons bergers.
Les bergers. Le vin et le fromage, et nous croyons une heure faire partie du voyage des bergers. C'est un peu comme Noël et ses trésors qui s'arrêteraient chez nous aux équinoxes d'or, les bergers. Après ça, ils s'en vont avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours, ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs, les bergers. Quand leurs bêtes ont fini de nous boire notre eau, se remettent en route à l'ombre d'un pipeau, les bergers.
Alors, on a parlé des robots tout à l'heure, Anne-Christine Taylor. J'ai l'impression que c'est un problème massif. Est-ce que les robots qui sont, par exemple, destinés à nous rendre des services doivent ressembler à des humains ? Quelle relation a-t-on avec eux ? Relation empathique ou de répulsion ? Vous parlez dans le livre, enfin dans le catalogue de l'exposition, de la vallée de l'étrange. Qu'est-ce que c'est que cette chose ?
Alors, justement, la vallée de l'étrange fait référence à un article célèbre d'un roboticien japonais qui s'appelle...
Célèbre pour ceux qui connaissent.
Célèbre chez les roboticiens. C'est une espèce de texte, vous savez, c'est un texte culte, comme il y a des films cultes pour les cinéphiles, etc. Pour les roboticiens, ce texte de Masahiro Mori, puisqu'il s'agit de lui, et a ce même statut de texte culte. Et c'est un texte extrêmement bizarre. L'industrie japonaise commençait à s'intéresser beaucoup à la robotique, et en particulier à la robotique de service. Pour des tas de raisons, parce que la population est vieillissante, parce que, et qu'on s'imagine que les robots vont pouvoir assister les personnes âgées à mieux vivre, et puis parce que les Japonais, alors c'est une déclaration d'un culturalisme un peu échevelé, mais c'est vrai que les Japonais ont une propension, une tendance à développer des machines humanoïdes de toutes sortes, d'ailleurs, pas uniquement des robots. Ça peut être aussi des objets religieux, des love dolls, on va éventuellement y revenir. Mais à humaniser ou à personnifier des objets, ils ont une grande facilité à la fois à les produire et à les incorporer à la société, disons. Donc Masahiro Mori se posait la question de pourquoi les Japonais et les roboticiens en général sont obsédés par l'idée de produire des robots humanoïdes. Sachant que la position bipède, qui est un peu le critère minimal d'anthropomorphisme, est en réalité très peu rentable pour un robot, c'est très mal commode. La plupart des vrais robots, par exemple militaires, ou sont des quadrupèdes. voire des octopodes, parce que c'est infiniment plus stable, plus la station debout occupe beaucoup de place et c'est pas du tout rentable pour un robot. Donc se poser cette question, pourquoi des humains et est-ce que vraiment ça les rend plus acceptables socialement, puisque c'était la grande question, comment faire pour que les robots soient acceptés par la société. Et Masahiro Mori a développé l'hypothèse que effectivement l'anthropomorphisme jusqu'à un certain point rend les robots plus acceptables, plus sympathiques, plus suscitant plus facilement l'empathie, mais seulement jusqu'à un certain point. Au-delà d'un certain degré de ressemblance, vous plongez dans ce qu'il appelle la vallée de l'étrange, c'est-à-dire une zone de répulsion.
De méfiance.
De méfiance, de répulsion. Et il donnait l'exemple type, évidemment, paradigmatique du creux de la vallée de l'étrange, c'est le cadavre, évidemment. Qui est personne, qui n'est plus personne, qui est, enfin.
Mais qui est le même, d'une certaine façon.
Qui est le même, tout en étant quelque chose de complètement différent. C'est profondément, c'est l'objet le plus troublant au monde, évidemment.
Donc le malaise vient quand on ne sait plus à qui on a affaire.
Voilà.
Quand le malaise, robot est à peu près ressemblant, on voit que c'est un robot, oui. Même s'il est ressemblant. Et s'il est trop ressemblant, on ne sait plus.
On ne sait plus, et c'est extraordinairement troublant. Si vous avez vu l'exposition, vous avez probablement vu la vidéo du robot fabriqué par Ishiguro, le roboticien japonais, qui est un sosie de lui-même. Il a fabriqué, et qui est une copie absolument stupéfiante de mimétisme. Puisque maintenant, la silicone et tout ça, on arrive à faire des copies d'humains formellement, si j'ose dire, absolument extraordinaire. Et quand on les voit les deux ensemble, c'est plus que les Américains diraient creepy, c'est incroyablement unheimlich, c'est terriblement dérangeant.
C'est presque un clone.
C'est un clone et en même temps, il bouge les yeux de façon un peu différente, il a des gestes qui sont un peu moins fluides et puis surtout, évidemment, il a un temps de latence dans la réaction.
Il faut
c'est
le temps que ça calcule.
Incroyablement dérangeant.
Mais lui-même, quel rapport a-t-il avec son robot clone?
Je crois qu'il le voit même plus comme un clone de lui-même, mais simplement comme un ensemble de circuits électroniques. Et la question de... Parce que ce qui l'intéresse, c'est ce qui est en dessous de la peau de silicone, si j'ose dire. En revanche, il a été très troublé, parce qu'il a commencé par faire des clones de sa femme et de sa fille, de sa petite fille, une dizaine d'années. Et là, on était moins bons. Et là, il a été franchement troublé. Ces robots-là ont eu un effet repoussant sur lui. Et du coup, il en a fait un lui-même, en se disant que ce serait moins repoussant.
Il y a une culture du robot au Japon qui est très forte, mais est-ce qu'il y a une robophobie? C'est-à-dire que...
Tout à fait.
Il y a un rejet, il y a une expulsion du robot de la sphère domestique où oui. On le perçoit comme une menace au travail, par exemple, puisqu'il détruit des métiers, quand même.
Il détruit des métiers, évidemment. Il y a des formes de ludisme robophobe, mais plutôt contre des robots industriels qui sont des machines, en fait, et qui n'ont absolument rien d'anthropomorphe, en général. Mais il y a aussi une robophobie dirigée contre les robots humanoïdes. Par exemple, m'a-t-on dit, les Allemands aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup plus réticents que les Japonais à accueillir l'idée, à accepter l'idée d'avoir des robots humanoïdes domestiques. C'est évidemment difficile de ne pas rapporter ça à une certaine expérience d'objectivation des humains qu'ils ont encore dans leur mémoire. Et je pense que, effectivement, des mémoires d'interaction terrifiante, traumatique, etc., de ce type-là, joue.
Donc il y a des effets de culture qui sont énormes dans le fait d'accepter ou non les robots.
Absolument.
Tür funktioniert automatisch. Jetzt wollen wir tanzen mit Panik. Wir sind die Roboter.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
Vous parliez tout à l'heure des Love Dolls. Enfin, vous vouliez parler des Love Dolls. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, les Love Dolls sont des objets extraordinairement intéressants.
Ça veut dire quoi, Love Doll ?
Alors, Love Doll, c'est poupée d'amour, tout simplement. Ce sont...
Pas forcément gonflables.
Pas, elles ne sont pas gonflables du tout. Ce sont des poupées en silicone, en général. D'ailleurs, très coûteuses, extraordinairement bien faites. Ce sont des clones d'humains. Très coûteuses, ça peut coûter jusqu'à 6, 8, 10 000 euros en fonction de la, du travail impliqué par la fabrication de l'objet. Ce sont des objets érotiques, faut pas non plus se voiler la face, ce sont des partenaires sexuels, mais pas uniquement, et surtout pas uniquement. Et en réalité, au Japon, quand quelqu'un, par exemple, acquiert, il y a quand même plusieurs choses intéressantes à propos de ces Love Dolls. La première, c'est que quand quelqu'un acquiert une de ces poupées, la commande, il y a tout un cérémonial qui s'installe au moment de la transmission de la poupée. On passe une sorte de contrat, quasiment un mariage. Et d'ailleurs, il y a des mariages qui sont performés entre des Love Dolls et des propriétaires, généralement des hommes, il faut bien le dire, mais pas exclusivement.
On peut épouser un robot.
On peut épouser. C'est même pas un robot, parce que ces trucs ne font rien, à vrai dire. Et ce sont des poupées, littéralement, mais des poupées taille humaine, de incroyablement mimétiques.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, en l'occurrence, les épouser ? Est-ce que ça
alors,
donne
on
des
les épouse,
devoirs ?
On les épouse et surtout... On s'engage donc à bien s'en occuper, à leur assurer une existence.
Mais il n'y a pas de réciprocité, alors?
Il y a, a priori, enfin, il y a une réciprocité imaginaire. Alors, il y a justement une chose très intéressante dans les Love Dolls, d'après la chercheuse, dans le catalogue, il y a un article de Daniel Giard là-dessus, qui est tout à fait passionnant. Si vous regardez bien les Love Dolls, le mimétisme est parfait, sauf pour certains tout petits détails. Par exemple, l'écartement des yeux est pas tout à fait normal.
Mais c'est voulu.
C'est voulu parce que l'idée, c'est le robot ne doit avoir aucune expression. Littéralement, aucune expression. Or, c'est pas facile à faire, un visage qui n'ait absolument aucune expression. Et l'idée, c'est que le visage soit un écran sur lequel le propriétaire peut projeter absolument toutes les émotions qu'il souhaite. Et c'est donc lui, d'une certaine façon, qui donne vie à sa Love Doll et qui lui construit des scénarios d'existence, etc. Et lorsque la poupée est trop vieille ou abîmée ou je sais pas quoi, la compagnie qui les fabrique s'engage à les reprendre et à leur assurer des funérailles.
Pas les remplacer.
Éventuellement, on peut les remplacer, mais en tout cas, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Parce que ça, c'est une question qu'on n'a pas vraiment explorée dans l'exposition. Qu'est-ce qu'on fait de ces quasi-personnes, qui ne sont pas des vraies personnes, quand elles sont cassées, usées, etc. Vraie question.
Est-ce qu'on recycle les robots ou
est-ce qu'on
les
recycle
met...
Vous avez sûrement vu cette géniale série danoise qui s'appelait Real Humans, qui justement...
Je dois confesser que je ne regarde pas de série.
Vous avez grand tort, Étienne. Celle-là est absolue. Surtout le début était absolument remarquable d'un point de vue anthropologique. Justement, présenter une société dans un pas très lointain futur, tout à fait comme la nôtre, mais dans lequel les robots humanoïdes devenaient des objets absolument quotidiens. Et justement, s'attacher beaucoup à des détails comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand c'est cassé ? Ou quand on n'en veut plus ? Comment on s'en débarrasse ?
Est-ce que ces Love Dolls ont beaucoup de succès ? Est-ce qu'il y a une demande très forte?
Oui,
ou est-ce que c'est simplement un gadget?
Non, il y a une vraie demande, mais elles sont coûteuses. Donc du coup...
Mais qu'est-ce qu'en pensent les épouses ou les épouses
En général,
virtuelles?
C'est des affaires de célibataires. C'est des affaires de célibataires. Le célibat est un vrai problème au Japon, en particulier les célibataires âgés. Et donc, c'est une affaire de compagnonnage. Mais les robots d'accompagnement, il y en a beaucoup au Japon. Il y en a un autre qui est le petit phoque Paro, dont il y a un exemplaire dans l'exposition, qui est un bébé phoque, enfin robotisé, qui a un succès fou, qui a eu un succès fou, qui a été développé pour les personnes très âgées, les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, les personnes atteintes.
Donc en fait, on compte sur le robot pour pallier tous les problèmes sociaux, affectifs, psychologiques de la société japonaise.
Complètement.
Et quand on interroge ces messieurs qui vendent des love dolls, est-ce qu'ils ont l'impression que leur sentiment de solitude est en partie compensé par la présence de ces robots, ou est-ce qu'au contraire il est augmenté? Est-ce que ça crée du vide ou de la présence?
Pour ce qui est des Japonais, ça marche plutôt bien. En tout cas, par exemple, avec Paro, pour les personnes très âgées ou atteintes de troubles mentaux, ça marche très bien. C'est ce qui compte. C'est pas du tout la permanence de l'objet en tant que tel, c'est pas le fait de savoir que Paro est là à côté d'eux, c'est de temps en temps dans la journée d'avoir des routines d'interaction où il y a quelqu'un qui vous répond, tout simplement. Ça suffit. Ailleurs, pas sûr que ça, effectivement, ne débouche pas sur un surcroît de sentiment de solitude. Mais enfin, au Japon, apparemment, ça a l'air de marcher assez bien. D'autant plus que, évidemment, c'est pas du tout les seuls objets avec lesquels on développe des routines d'interaction. Il suffit d'un téléphone portable, à la limite, pour produire à faible niveau d'intensité ce genre d'effet. Mais plus l'interaction est ciblée vers vous spécifiquement, plus elle a l'air d'être une réaction adéquate à ce que vous, à votre propre comportement, plus c'est...
Plus Rimbaud attend, plus, ça marche. Plus on le personnifie.
Oui, mieux ça marche.
Mais le téléphone portable n'est pas du tout anthropomorphe.
Si, parce que au Japon, par exemple, on produit des téléphones portables en forme de... une espèce de bébé gélatineux, des télénoïdes, ça s'appelle.
Qu'on colle sur l'oreille.
Qu'on colle sur l'oreille.
Et ça plaît.
Il paraît.
Alors, vous êtes anthropologue, Anne-Christine Taylor. Est-ce que les anthropologues s'intéressent à la question de savoir ce qu'il se passerait dans une société si elle devait cohabiter avec des robots qui ressemblent aux personnes qui composent cette société? Est-ce qu'on y aurait une sorte d'intégration totale, ou est-ce qu'au contraire, il y aurait une sorte de communautarisme qui séparerait les personnes des robots?
Grande question. Et effectivement, on s'obnubile un peu sur la question de si les robots sont des personnes, s'ils auront des droits, etc. On s'interroge en réalité beaucoup moins sur la question que vous venez de soulever, à savoir qu'est-ce que les robots vont faire de nous? C'est-à-dire, dans quel genre d'humains vont-ils nous transformer, nous? Effectivement, est-ce qu'on va les accueillir comme des citoyens, par exemple?
Est-ce qu'ils vont nous dresser un peu comme les moutons dressent les bergers? Ou est-ce que c'est nous qui allons garder la mainmise sur leur comportement?
A priori, et c'est évidemment nous qui allons garder la mainmise sur leur comportement.
Oui, mais ils apprennent des interactions.
Mais ils apprennent des interactions, et entre nous soit dit, il ne faut pas non plus prêter à la robotique plus qu'elle ne peut faire pour l'instant. On s'est beaucoup extasié sur le robot qui a battu le joueur de Go récemment. Mais ce robot-là est infichu de répondre à une question du style « Y a-t-il des éléphants roses ?» par exemple.
Et puis il est foutu d'avoir mal aux pieds.
Oui, voilà.
Donc le robot est inaccessible à la souffrance. Donc est-ce que
il
le
est
critère...
inaccessible à la souffrance. Évidemment, tout le monde a en tête l'extraordinaire moment final de l'Odyssée de l'espace 2001 et la mort de HAL, qui est à la fois déchirante et très profondément troublante, parce que justement, voilà une machine qui, tout d'un coup, c'est au moment où elle meurt qu'elle devient le plus humaine, évidemment. Donc du coup, tout d'un coup...
Et qu'on sent qu'elle a été vivante.
On sent qu'elle a été vivante, mais juste avant qu'elles ne disparaissent. Et d'ailleurs, le reste aussi.
Et je me suis laissé dire que les robots qui sont là pour aider les personnes âgées, quand il faut les éteindre, provoquent chez les personnes âgées un sentiment terrible qui peut avoir des effets psychologiques assez graves. Ils les voient mourir chaque jour.
Sûrement, parce que, effectivement, plus le robot est fait pour interagir avec vous, plus on le rend mignon, et surtout enfantin, parce que les roboticiens adorent fabriquer des robots. Je sais pas si vous avez vu les robots d'Aldébaran, par exemple, récents. Ils ont tous un côté enfantin, juvénile, qui, moi, personnellement, je trouve très gênant d'avoir à dire à un robot, apporte-moi mon café, à un robot qui ressemble à un enfant.
Mais vous comprenez pourquoi ? Vous êtes troublé, gêné ?
Oui, parce que j'ai pas du tout envie de... Si j'ai un robot, je voudrais à la limite qu'il soit comme un butler anglais, c'est-à-dire d'une totale discrétion, et où je suis obligée d'assumer ma supériorité de classe.
Une espèce de majordome invisible.
Un majordome invisible. Un enfant, on le traite pas comme un inférieur social, si j'ose dire. Pas des ordres, normalement. Ou alors oui, mais du coup, on le traite comme un enfant. Et éteindre son enfant le soir, c'est quelque chose de profondément répugnant.
Christine, alors il y a un chapitre du catalogue qui est consacré aux fantômes.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un fantôme ? Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que on pourrait parler d'une ontologie des fantômes qui ferait d'eux des êtres plus réels que les êtres vivants parce que justement ils ne meurent pas ?
Oui.
C'est la thèse de Modiano dans beaucoup de ses livres. Il défend l'idée qu'il y a une ontologie fantôme.
Il y a des fantômes partout en ce sens qu'il y a partout. Je pense qu'il y a très peu de cultures où il n'y ait pas l'idée que les morts dans un certain état et pendant un certain temps peuvent être là, peuvent être là dehors, peuvent être des présences, effectivement.
Des spectres.
Avant de devenir des vrais morts, c'est-à-dire des gens qui, justement, dont le propre est de pas venir vous embêter, d'être des ancêtres, non pas qu'ils vont plus agir sur vous ou qu'on pourra plus interagir avec eux, mais ils n'ont pas cette faculté qu'ont les fantômes.
Mais c'est l'affaire de temps qui passe, simplement?
De tas de choses.
On ne meurt pas instantanément.
On ne meurt jamais instantanément. La mort, on le sait très bien. C'est effectivement, il y a une mort médicale qui peut être plus ou moins, qui est en fait plutôt arbitraire. La médecine décrète que à partir d'un certain niveau, un certain état du cerveau et des organes, on est mort. Mais ça pourrait aller 5, 10 minutes ou secondes de plus.
Oui, les atomes qui constituent le corps n'en meurent pas pour autant.
Et par ailleurs, évidemment, cette transition, psychologiquement, elle ne se fait pas comme ça. Ça va de soi. Donc, il y a des périodes pendant lesquelles les morts ne sont pas encore complètement morts. Ça peut varier selon les cultures, ça peut varier selon le type de mort. Ce qu'on appelle les mal-morts, qui typiquement sont une des grandes sources des fantômes, c'est-à-dire des gens qui ne meurent pas dans des conditions normales.
Mais est-ce qu'il y a des cultures dans lesquelles un mort ne cesse jamais d'être une personne ?
Ils peuvent cesser d'être des personnes, mais simplement quand ils tombent dans l'oubli. Effectivement, au bout d'un... Les morts qu'on oublie, qui ne sont ni ancestralisés, dont le nom ne se transmet pas, dont rien ne reste, C'est d'ailleurs jusqu'à un certain point le cas des morts en Amazonie où effectivement il y a une oblitération des générations passées relativement rapide. Mais ils subsistent en tant que catégorie d'êtres. Donc il y a des sociétés sans morts, ça n'existe pas.
Anne-Christine Taylor, on parlait tout à l'heure de la projection que nous faisons sur certains objets, nous leur parlons, nous leur attribuons des intentions. Si par exemple je décide de parler à mon vélo, de lui donner un nom, est-ce que je suis un anthropomorphiste forcené pour autant?
Vous êtes un anthropomorphiste normal.
Moi, je parle à mon vélo, mais beaucoup parlent à leur ordinateur.
Alors, parler à son vélo, vous êtes sûrement pas le seul. Moi, ça me viendrait pas trop à l'idée, mais je parle à plein d'autres choses. À mes fleurs, à mes rosiers, à des animaux. Mais moi, je suis plutôt porté vers l'anthropomorphisation de l'organique, mais il y a plein de gens qui font ça avec des machines aussi. Vous savez, vous le signaliez vous-même dans votre introduction à cette émission, c'est vrai qu'on a subi une cure d'amaigrissement terrifiant depuis la période des Lumières en termes de présence admise non humaine, si j'ose dire. On est obsédé par l'idée de trier entre ce qui est et ce qui n'est pas, ce qui n'a pas droit à être. Et on perd énormément de temps dans ces opérations. La science, d'une certaine façon, est chargée, justement, chez nous, maintenant, depuis au moins un siècle et demi, de dire ce qui est, ce qui n'est pas. Mais, pour le moyen, même pour vous, vous qui êtes physicien, et donc à l'avant-poste, si j'ose dire, des opérations de triage entre ce qui est et ce qui n'est pas, vous parlez à votre vélo. Et tout le monde fait ça, et Dieu merci. C'est tout simplement impossible de ne pas...
Plus exactement, je me parle à moi-même par l'intermédiaire de mon vélo.
Vous vous parlez à vous-même, c'est pas évident. Vous parlez à une entité qui est quand même en dehors de vous, qui n'a pas votre corporéité, qui n'est pas vous, exactement. Même si vous lui... C'est un jumeau, peut-être, mais c'est pas vous.
En tout cas, il me ressemble pas.
En effet, et ça, ça change tout.
Est-ce qu'on a établi des critères qui permettent de savoir à quel type d'objet on parle? L'anthropomorphisme, on voit que c'est pas suffisant.
Alors l'anthropomorphisme, effectivement, n'est pas suffisant parce qu'au sens strict, l'anthropomorphisme, c'est la forme. Et on a eu à cœur de le montrer dans l'exposition. C'est pas tellement la forme. Par exemple, l'expérience de Heider et Simmel le montre aussi. Il suffit d'avoir une forme de cube et de rond pour avoir des effets de personne. Donc c'est pas la morpho, la forme, c'est effectivement les indices d'intentionnalité. Et là, du coup, dans l'intentionnalité, on a tendance à être anthropomorphiste. C'est-à-dire, on a tendance à imaginer que l'intention qu'on prête serait très fugacement à des objets, personnes, sont de type semblable au nôtre. Donc on fait de l'empathie d'une certaine façon, et je pense que c'est presque impossible d'imaginer des intentionnalités qui soient pas, d'une manière ou d'une autre, étalonnées par notre propre conscience de ce qu'est l'intentionnalité.
Est-ce que tout objet technique qui serait doté d'une apparence humaine, comme l'Ève future du roman de Villiers d'Isle-Adam, produit ou implique une suggestion d'âme? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une âme dans des objets inanimés?
L'âme, c'est notre manière de parler. C'est le terme que nous, on donne effectivement à, en fait, ce qui est tout simplement une position de sujet, une position d'énonciateur, une position, c'est je. L'âme, c'est ça. C'est la chose en nous qui dit je, tout simplement. Donc, du coup, c'est ça qu'on prête, d'une certaine façon, quand on impute ou qu'on détecte des intentionnalités dans notre environnement. Plus ou moins fort. Et on a parlé à un moment avant de la question du côté impermanent ou fugace et aussi des variations d'intensité. Effectivement, on s'occupe beaucoup de questions de triage, alors que, donc, de dire ce qui est ou ce qui n'est pas, beaucoup de gens et beaucoup de sociétés différentes s'occupent plutôt de mesurer des degrés d'intensité et des moments de présence. Autrement dit, des contextes dans lesquels on détecte des présences. Par exemple, dans les temples hindous, Il y a beaucoup de références au monde indien dans l'exposition Persona, parce que il se trouve que deux des commissaires de l'exposition sont des spécialistes de l'Inde, Emmanuel Grimaud et Denis Vidal. Et comme le disait un informateur indien à un grand anthropologue spécialiste de l'Inde français, India, best gods. Effectivement, ils sont très bons pour les dieux. Ils sont très bons, très inventifs à la fois dans la forme, dans les moyens de communication, dans les moyens d'action, etc. Or, dans les temples indiens, les dieux sont figurés par toutes sortes de statues, d'ailleurs de plus en plus par des automates électroniques, maintenant. C'est une des choses sur lesquelles travaille Emmanuel Grimaud, justement, et dont figurent quelques-uns dans l'exposition. En temps normal, ces statues sont considérées comme des réceptacles possibles, mais pas permanents, de divinité. Il faut, pour que le dieu soit là, il faut les réveiller. Donc, il y a toute une série de rituels qui consistent à réveiller les dieux. On leur apporte à manger, on les lave, on leur ouvre les yeux, etc. Autrement dit, on interagit avec eux. Et c'est l'interaction qui les fait advenir, d'une certaine façon. Maintenant, avec la robotisation des dieux dans les temples, d'une certaine façon, l'interaction passe par l'interaction du public avec ces dieux robotisés qui bougent, qui attirent le regard, qui attirent la dévotion et qui remplacent un peu les rituels anciens d'éveil.
Mais si on peut robotiser les dieux, est-ce qu'on ne peut pas diviniser les robots ?
C'est déjà fait. Pour les dévots hindous, c'est la même chose. Les grands automates qui figurent les dieux sont le dieu pour eux. Comme je vous l'ai dit, il n'y réside pas nécessairement, mais à partir du moment où il bouge, où il a un effet de présence, cet effet de présence, c'est le dieu. Mais ils sont pas idiots, hein, ni infantiles. C'est pas que la statue est le dieu, c'est que l'effet de présence qu'il produit est une intuition
de Dieu.
De Dieu.
On provoque l'idée de Dieu
artificiellement. L'idée de Dieu. Voilà, exactement.
Il y a une phrase dans le catalogue que vous citez, c'est extrait d'une lettre de Kafka à Mileva.
Ah oui.
En Milena ou Mileva ?
Milena.
Ah oui, c'est parce que je travaille sur Einstein et la femme d'Einstein s'appelait Mileva. Oui. Donc c'est une lettre de Kafka à Milena en 1922. Il dit ceci, l'humanité a cherché à éliminer le plus qu'elle le pouvait le fantomatique entre les hommes. Qu'est-ce qu'il voulait dire
admirable,
par là ?
Admirable citation. Justement, probablement, tous ces effets de présence latente, qui, à la fois les effets de présence latente qui sont les fantômes d'une certaine façon, qui sont agglutinés autour d'une interaction entre vous et moi. Par exemple, nous avons parlé de Einstein, de Kafka, de Deleuze, de plein de fantômes. On n'arrête pas au moment même où on énonce de faire référence, d'une certaine façon, à du fantomatique. Mais aussi, évidemment, dans l'interaction, chaque interaction est, d'une certaine façon, un rappel d'eux ou évoque des formes d'interaction avec d'autres proches, éventuellement disparus, etc. Et je pense que c'est à ça que faisait la présence massive, mais impalpable, invisible, de tous ces fantômes, de tous ces morts, présence d'arrière-plan dans n'importe quelle interaction, et qui d'ailleurs est la condition de possibilité, d'une certaine façon, d'une interaction, d'une communication entre humains.
Alors, il y a beaucoup d'objets techniques qui font certaines choses mieux que nous. Par exemple, un ordinateur calcule mieux que nous. Est-ce que ça ne peut pas produire ce que Günther Anders appelait une honte prométhéenne ? C'est-à-dire, nous sommes capables de fabriquer des objets, des robots par exemple, qui font mieux que nous certaines tâches et qui, d'une certaine façon, nous rendent service tout en nous humiliant.
C'est absolument vrai et en même temps, c'est un peu idiot. Parce que il y a des quantités d'animaux qui font 10 fois mieux que nous, plein de choses. Un cheval de course court 10 fois plus vite que nous.
10 fois.
Enfin, peut-être pas 3 fois. Disons, je sais pas quelle est la vitesse de. Mais un cheval de course, un très bon cheval de
ça
course,
c'est 60 km/h.
C'est un peu plus de 60 km/h.
Ouais, Usain Bolt, à la fin d'un 100 mètres, il est pas très très loin de 40 ou 42.
Admettons, un guépard à ce moment-là, si vous préférez, un éléphant. Vous imaginez que nous, on arrive à faire le dixième de ce que fait un éléphant en termes de
puissance.
De puissance.
Mais l'homme peut courir très longtemps.
De oui, d'accord. Mais je veux dire, le dire que les robots nous font honte. Pour...
Oui, mais on n'a pas créé les animaux.
On n'a pas créé les animaux.
On a créé des machines.
Et on a en principe créé le calcul.
Et encore, les machines qui calculent. Et elles le font mieux que nous.
Et bien, elles le font beaucoup mieux que
donc
nous.
Donc on est fiers de les avoir faites et en même temps.
Ouais.
Elles nous dépassent.
Je sais pas. J'ai un peu de mal à imaginer qu'on ait honte de ça. On a fait des machines tellement, on n'arrête pas d'inventer des machines tellement puissantes que nous.
Non, mais si on est entouré, par exemple, de robots anthropomorphes qui sont vraiment comme nous, qui font tout mieux que nous, quelle sera notre utilité? Le fait que par exemple, des métiers soient supprimés par des robots, ça crée quand même un sentiment d'humiliation pour ceux qui sont...
Ah, ça c'est certain. Ça c'est absolument certain. La redondance provoquée par l'invention de nouvelles robotiques industrielles est terrible. C'est évident, mais ça c'est un problème politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas été foutu d'inventer encore des nouvelles formes de participation sociale et de travail utiles. Qui redonne un peu un sens d'existence, tout simplement. On est dans une société, effectivement, qui disqualifie, au-delà même de la robotisation industrielle, qui a déjà disqualifié tellement de gens d'une possibilité d'existence normale et de participation normale à la société, qu'effectivement...
Justement, la requalification de ces personnes sera d'autant plus difficile que les tâches qu'elles pouvaient faire sont exécutées par... des objets ou des machines.
C'est pour ça qu'il serait temps de commencer à penser, à repenser qu'est-ce que c'est que de participer à une société, qu'est-ce que c'est que de travailler pour et dans une société.
Alors, on ne peut pas dire, si je comprends bien ce que vous dites, que tout est personne, y compris les machines, ça serait aller trop loin. On ne peut pas dire non plus rien n'est personne à part l'être humain, ça serait contradictoire avec les observations que font les anthropologues. Alors, quel est le critère de séparation? Est-ce que c'est le vivant?
Non, pas nécessairement, parce que le vivant, justement, la robotique montre assez que...
Et comment est-ce qu'on peut régler ce problème, de trouver la démarcation? Parce qu'il faut bien en trouver une.
Est-ce qu'on est obligé d'en trouver? Alors justement, est-ce qu'on est vraiment obligé d'en trouver une? Est-ce que, précisément, d'une certaine façon, votre réaction met en lumière, justement, cette espèce de pulsion de triage qui caractérise...
C'est pas une pulsion, c'est l'idée qu'il faut trouver un critère qui peut s'accommoder de façon plus ou moins souple. C'est-à-dire on peut être plus ou moins une personne.
Oui.
Mais il faut quand même dire à partir de quel critère on qualifie ou on quantifie ce degré de personnalité d'un objet ou d'un être.
Mais je pense que c'est une question à la fois d'intensité et de... On n'est pas dans le « c'est » ou « ce n'est pas ». La question d'intensité est très importante. Le critère, c'est effectivement les indices de présence d'intentionnalité. Elles peuvent être très très faibles, il suffit vraiment de pas grand-chose, une feuille qui craque derrière vous, paf, ça y est.
Mais ce que vous appelez dans l'exposition des idoles de pierre,
oui.
Elles n'ont pas d'intentionnalité.
Et pourtant,
elles sont considérées par certaines cultures comme des personnes.
Elles sont considérées comme potentiellement... ou évocatrice de personnes. Une fois de plus, ces choses-là ne sont pas à prendre littéralement. Les gens sont pas plus fous que vous et moi, ni plus idiots, ni plus fétichisme. C'est une gigantesque invention occidentale qui suppose justement une croyance en la vraie existence de personnes de pierre. C'est pas du tout ça. Une idole de pierre comme celle qu'il y a dans l'exposition, qui a une forme anthropomorphe. Et cette forme anthropomorphe, elle est là pour dire « il peut y avoir personne ». Si vous me regardez, ça évoque une idée de personne. Mais en même temps, ça évoque aussi la distance entre cette pierre et ce qu'est une vraie personne. Et beaucoup de sociétés qui produisent des figurations de personnes sont extrêmement attentives à produire des figurations qui soient justement à la bonne distance. Masahiro Mori, dont on parlait tout à l'heure, pour lui, le robot idéal, d'une certaine façon, il devrait avoir la forme du Bouddha. Pourquoi le Bouddha ? Parce que le Bouddha est... dans les représentations classiques asiatiques du Bouddha, il a exactement la bonne distance entre un visage humain avec des émotions humaines reconnaissables et autre chose. Et pour lui, ça, c'est exactement la bonne forme à donner, par exemple, à un robot.
C'est-à-dire qu'il faut une superposition de quelque chose d'humain avec quelque chose qui ne l'est pas.
Exactement.
Pour le rendre à la fois proche de nous et distinct de nous.
Exactement.
Alors, on parle beaucoup aujourd'hui d'un droit des animaux. Est-ce qu'il faut accorder des droits à tous les animaux ou à simplement quelques-uns d'entre eux, quelques espèces? Est-ce qu'un jour, à votre avis, si cette notion de personnalité diffuse dans les objets de plus en plus proches de nous, est-ce qu'il faudra mettre sur pied un droit des objets?
D'une certaine façon, ça existe déjà. La Cour suprême en Inde a accordé le statut de personne morale à un dieu, non seulement à un dieu incarné en l'occurrence, à une statue divine. Donc, d'une certaine façon, on est déjà aux portes de ce genre de choses. Et c'est vrai que le droit commence à, et notamment ce qu'on appelle le soft law, c'est-à-dire tout ce droit qui cherche des accommodements aux frontières entre le droit écrit, canonique, codifié, etc., et les nouveaux comportements. Dans cette zone de soft law, vous allez trouver beaucoup, justement, de tentatives, de propositions, de modifications du droit pour tenir compte, pour prendre en compte cette montée en puissance, si j'ose dire, de personnalité, de choses qui ne sont pas considérées comme des
choses. Il sera bientôt interdit de casser un ordinateur ou un téléphone?
Ben justement, ce sera au droit, d'une certaine façon, de statuer là-dessus. Effectivement, je pense que les juristes y réfléchissent déjà.
Merci Anne-Christine Taylor d'être venue à la conversation scientifique. J'invite les auditrices et les auditeurs à visiter l'exposition Persona au musée du Quai Branly, qui est ouverte jusqu'au 13 novembre 2016. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Philippe Palares et à la réalisation François Connac. Suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Projection privée par Michel Simon.